française.
Latina.
La franco-latina.
Y aunque mi amo me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón.
En la mina brille el oro, al fondo del socavón. El blanco se lleva todo.
Le 5 août 2010, le Chili a commencé à vivre un épisode fort singulier de son histoire récente. L'éboulement du mine dans le nord du pays a marqué le point de départ du calvaire des 33 mineurs qui, 60 jours durant, se retrouvèrent coincés à 700 mètres de profondeur. Il a hélas donné lieu aussi à un déferlement médiatique qui a mis les mineurs au beau milieu d'un show dont l'un des animateurs les plus insolites aura été ni plus ni moins que le président chilien Sébastien Piñera. Journaliste, reporter, correspondante de guerre, la franco-chilienne Cristina Lom a l'habitude d'aller au charbon et de chercher obstinément l'envers du décor, bien souvent plus intéressant et surtout plus parlant que celui imposé par les caméras et les communicants de tout poil. Cette fois-ci, elle a choisi de donner la parole à trois des nombreuses femmes, filles ou sœurs des 33 mineurs. Dans « 70 jours dans l'enfer de la mine », l'ouvrage que Cristina a publié récemment en France, Monica, Veronica et Maritza, trois femmes et filles de mineurs, se racontent avec une franchise totale et une sagesse souvent étonnante. Nous avons rencontré Cristina Lom pour mieux connaître l'acheminement de cet ouvrage qui est tout autant celui d'une journaliste que celui d'une femme sensible. Elle a commencé par nous expliquer comment était-elle venue à concevoir cet ouvrage qui raconte le quotidien de celles qui, plus que jamais, attendaient et surtout espéraient.
Je crois que c'est en tant que journaliste, c'est assez frustrant de rester en surface toujours, de voir le trou, de parler du trou, de la mine bien sûr, et d'en rester là et de ne pas approcher les gens. Mais moi j'ai toujours eu cette tendance de creuser et d'aller voir les gens. J'étais en Afghanistan il y a quelques années, c'était la même chose. Je reste pas à l'hôtel, quoi. Ça m'intéresse pas, ça. Donc m'approcher des femmes, les femmes étaient omniprésentes, elles sont là, elles étaient là depuis le premier jour. Donc j'aurais pu m'approcher des hommes qui étaient là aussi, mais finalement ils sont moins nombreux et moins présents et moins actifs. Les femmes étaient vraiment, enfin c'est les piliers de la famille des mineurs et c'est elles qui ont fait bouger les choses quand le ministre à un moment donné, deux jours après le premier éboulement, le 7 août, on sent que le ministre va leur annoncer que c'est fini parce qu'il y a un deuxième éboulement et que la ventilation, l'accès par la ventilation se bouche. Il va leur annoncer que c'est fini. On le sent tous. On a tous l'impression qu'ils sont morts. Eh bien, c'est elles qui vont l'empêcher de pleurer et même. Ils vont lui dire non, vous n'avez pas le droit de pleurer. Et ça, c'est touchant. Moi, je suis aussi une femme, mais je dirais que cette espèce de dignité, cette absence d'hystérie totale, il n'y en a pas une qui a pété un câble. Elles sont toutes très très dignes, elles restent debout, elles pleurent bien sûr, mais elles sont là et elles restent là. Et il y a une force énorme qui se dégage d'elles. Alors tu me demandais pourquoi il y a aussi autre chose. Je crois qu'au Chili, on a tous un lien plus ou moins lointain, plus ou moins proche avec la mine. La mine, elle emploie plus de 100 000 personnes. Et on connaît toujours quelqu'un qui travaille. On va tous dans le désert et on voit les mines. La mine, ce n'est pas quelque chose d'inconnu pour nous, c'est quelque chose qui nous touche. Donc on sait que ce n'est pas le show qu'on nous a montré. Cela dit, le show il n'a été montré qu'à partir du moment où on a vu les mineurs vivants. Avant, on ne les voyait pas. Avant, il n'y avait que les journalistes chiliens qui étaient là en train d'écouter l'événement parce qu'on croyait qu'ils étaient morts et on était dans la recherche. Mais c'est qu'à partir du 22 août, on sait qu'ils sont vivants, que ça devient un show et que ça devient aussi quelque chose que le pouvoir en place va pouvoir récupérer et va pouvoir manipuler.
On disait donc qu'il y a cette énorme couverture médiatique qui évidemment s'accentue avec le fait de savoir qu'ils sont vivants, qui s'accentue avec le fait que ça devient un lieu d'exposition très très prisé par les politiques, à commencer par les présidents de la République. Et c'est un peu là-dessus que vous avez l'impression que, en parallèle avec cette surexposition, il y a un quotidien de ces femmes qui est bien moins glorieux, si je peux dire. Il y a bien moins glamour et cela, on parle peu.
Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, mais je dirais que ce n'est pas non plus la faute des journalistes. Les femmes se ferment. Elles sont... Je les vois en évolution. Hein. Il y a des moments, je suis à côté d'elles et je vois qu'elles disent non à des journalistes et je me dis, mais pourquoi moi ? Enfin, je me le dis, en même temps, moi, je les ai approchées par l'Église parce que je sais que l'Église est proche. Donc, en tant que journaliste, c'est pas juste se dire, je vais arriver, je vais poser des questions et elles vont me répondre. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut les approcher en ayant une espèce de virginité, je dirais. Il faut se présenter, il faut parler de soi avant d'entendre les autres parler. C'est une communication à la chilienne. Donc moi, je sais dès le départ que je ne peux pas arriver les mains dans les poches et les questionner, je n'aurai rien. Donc j'arrive par l'église. J'ai contacté la responsable de l'église, je lui explique mon projet, on accroche. Aussi, elle me pose des questions. Hein. C'est pas... Au Chili, on ne pose jamais une question sans d'abord parler de soi. C'est-à-dire, on dit, voilà, je viens de là, j'ai 3 enfants, j'ai pas de mari, j'ai un mari. Enfin, tout ça, c'est un ensemble. On ne pose pas les mêmes questions à une femme de mineur qu'ici en France, à une femme de ministre, ça c'est sûr.
J'ai l'impression que ta démarche a été... En même temps, et à part égale, presque une démarche de femme. Tu parles d'un regard humain, qu'une démarche de journaliste. Est-ce que c'est cela peut-être qui a fait que tu as pu finalement approcher quelques-unes de façon vraiment très intime finalement ?
Je ne saurais pas le dire, mais c'est vrai que j'établis des contacts avec des femmes, c'est sûr. Et en tant que femme, j'étais dans la complicité. Et quand je suis allée les voir, je leur ai dit, voilà, moi ce que je veux, c'est raconter qui tu es, d'où tu viens, tes rêves. Pas seulement ce que tu es en train de vivre ici, parce que ce que tu vis ici, elles avaient envie de le monnayer, ça c'est sûr, parce qu'elles avaient l'impression de devenir des stars, ce qu'elles étaient d'une certaine manière, mais des fausses stars. Parce qu'en fait, les journalistes qui étaient là, les gars de la télé, et c'était comme les oiseaux, ils picoraient quelque chose, et ensuite elles ne se reconnaissaient plus dans ce qu'elles voyaient à la télé. Donc elles avaient un sentiment de frustration, et moi je leur ai dit, voilà, moi je te promets, je reviens quand c'est écrit, je te lis tes parties et tu me diras si ça va. Donc je suis revenue et d'ailleurs Maritza, la fille de Victor Segovia, je lui ai lu les passages et à un moment donné je ne l'entendais plus. Je lui ai lu une partie par téléphone et je lui ai dit mais je ne t'entends plus. Elle m'a dit ah non je trouve ça passionnant. C'est-à-dire qu'elle était passionnée par ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit, c'est pas mal, hein. J'ai dit, mais c'est toi qui me l'as dit. Ah, c'est bien. Il y avait le recul, c'est vraiment la plus profonde hein, des trois. Elle s'est vraiment donnée, mais avec une facilité déconcertante, quoi. C'était bien de parler du fait qu'elle ne pouvait pas descendre à la mine parce que son père le lui interdisait, parce que la mine, pour son père, c'était un endroit où les femmes n'allaient pas. Monica, elle dit l'inverse, hein. Ça se croise, parfois les mêmes thèmes, elles ont des positions très opposées, c'est pas une opinion, mais du coup elle était fascinée par la mine en tant que petite fille, elle me parle aussi du quartier où son père choisit de vivre, où il ne veut pas vivre dans un quartier de mineurs, donc on commence à comprendre aussi le caractère des mineurs à travers les paroles de ces trois filles, on commence à voir qu'ils sont très souvent poètes. Moi, j'en ai côtoyé un certain nombre. C'est vrai qu'ils sont fascinants. Moi, je suis fascinée. J'avoue, je suis une fascinée de la mine. Si j'étais un homme, physiquement, je n'ai pas les moyens, mais je pense qu'à 20 ans, j'aurais été une mineuse, enfin une mineure. Plaisir, parce qu'il y a quelque chose... C'est pas la richesse, c'est pas l'argent, c'est la recherche. Et il y a quelque chose qui se crée entre eux. Il y a une atmosphère, là, au fond du trou. Et puis... Franchement, n'est pas mineur qui veut. C'est des super mecs.
Il y a quelque chose qui est d'ailleurs dans les titres de ton ouvrage, 70 jours dans l'enfer de la mine. Et on n'a pas de mal à comprendre ce que c'est que d'être enfermé dans un trou à 700 mètres sous terre sans savoir si tu vas sortir. Mais il semblerait que la sortie, le retour à la surface n'a pas été moins infernal et que d'une certaine manière, il l'est tout autant, sinon plus, pour certains d'entre eux. Comment ça se passe aussi avec leurs compagnes ?
Il y a deux niveaux. D'abord, le niveau technique de la sortie, ça ne s'est pas passé comme on l'a vu à la télé. D'ailleurs, j'en parlais souvent avec des journalistes qui me disaient « t'as de la chance d'aller au bout, d'aller en profondeur, de raconter tout ça ». Parce qu'eux n'avaient pas le droit. Des gens de la télévision chilienne avaient comme consigne d'être très positifs avant qu'ils ne sortent. Moi, ce qui m'a frappée, c'est au moment de tout l'événement là, du sauvetage, en fait, le tube par lequel la capsule Phoenix devait sortir n'a été... que sur 56 mètres, alors qu'il faisait 688 mètres de profondeur. Il y a une journaliste qui a eu le culot, je dis bien le culot, de poser la question à un spécialiste, et le spécialiste lui a dit « ne vous en faites pas, on contrôle ». C'est-à-dire une non-réponse. Et ça, en France, ce serait inimaginable qu'on donne cette réponse-là à un journaliste. Au Chili, la journaliste s'est tue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au Chili, il y a encore... Je pense, moi, ce sont les restes de la dictature, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une éducation. Et ça va encore nous coûter quelques générations de nous retirer cette espèce de peur de poser des questions. Et ça, on va mettre du temps pour s'en défaire. Donc là, il n'y avait pas de réponse. Et toutes les réponses qu'on avait, c'était « ne vous en faites pas, techniquement, on est au top, on contrôle ». Alors qu'ils ne contrôlaient pas. La petite roue de la capsule aurait pu se coincer n'importe où. Elle ne s'est pas coincée, et ça, c'est le miracle. Et d'ailleurs, les mineurs descendaient de la capsule, sortaient de la capsule et disaient tous « la puerta », tous ils disaient ça. Et il n'y a personne qui a relevé ça, donc c'était incroyable. On serait en France, on aurait dit à un moment donné « il y a un problème avec la porte ». La presse aurait fait un zoom, on aurait pris quelqu'un à part. Là non, personne n'a rien fait. Ça c'est d'un point de vue technique. Quand les hommes sont sortis, ils ont eu le choc médiatique. C'est-à-dire qu'ils ont dû affronter une presse qui était omniprésente, qui en a fait des espèces de stars, et je pense que même les femmes étaient convaincues qu'elles allaient changer de vie, devenir riches, c'était le jackpot. Or, il n'y a rien eu de tout ça. C'est-à-dire elles ont touché un chèque de Leonardo Farcas, un propriétaire des mines locales, qui leur a donné 5 millions de pesos, 8 000 euros. Bon voilà, elles l'ont tous, c'est pas elles qui l'ont eu, tous les mineurs l'ont eu, ce chèque. Et à partir de là, ils ont raclé à droite et à gauche en faisant payer des médias, surtout des télévisions qui mettaient des dollars sur la table. Et puis ça s'est terminé. Et les plus sages, comme par exemple Lovos, qui est un ex-footballeur, on lui a proposé quelque chose, il a dit non. Il a dit qu'il restait. Il restait la copiapo, dans son copiapo. C'est aussi ça la mentalité des mineurs. Ils savent qu'ils retourneront à la mine. Ils savent que ce show, c'est du show. Mais même si tu le sais, tu es pris dans une espèce de mouvement, tu es brassé, tu es bouffé par le mouvement des médias, médiatiques. Avoir le président de la République qui te tape sur l'épaule ou le ministre qui s'arrête quand il t'éclabousse, c'est pas tous les jours pour un mineur. Ça a été un temps. Et puis quand ça s'est arrêté, parce que maintenant c'est fini, il y a une dépression. En ce moment, il y avait un mineur qui devait se marier, il ne se marie plus. Il y en a plusieurs qui ont quitté leur femme. Donc il y a un peu la prise de grosse tête, mais pas seulement ça, c'est aussi la dépression profonde. Et moi, c'est celle-là qui me fait peur. Parce que en 1990, il y a 20 ans, il y avait une spéléologue française qui s'était enterrée sous terre, à 80 mètres sous terre, pendant 110 jours, je crois, 111 jours. Elle savait qu'elle pouvait sortir, donc elle aurait pu sortir. C'est différent par rapport aux mineurs. N'empêche, elle est sortie, elle s'est suicidée 14 mois après. C'est sûr qu'on ne peut pas généraliser sur une expérience scientifique. Mais cette femme, elle s'est suicidée. Ça veut dire qu'il y a des altérations physiques et psychologiques quand on est sous terre, quand on n'est pas en contact avec la lumière. Il y a des choses que la NASA est en train d'étudier, que tout le monde étudie, que personne ne sait finalement ce que ça peut faire comme effet. Et je pense que ces hommes, il faut vraiment les avoir à la loupe pour pas qu'ils se suicident, pour pas qu'il y ait des effets secondaires. Là, en tout cas, ils ne sont pas bien. Moi, les trois hommes que j'ai vus, je ne les ai pas vus trouver bien.
Est-ce que la sorte de grande sensibilité qui semblait y avoir au Chili, évidemment dans l'opinion publique, dans les médias, un peu partout, on a vu le président de la République parcourir le monde en montrant les petits bouts de papier où le mineur disait qu'ils étaient vivants et qu'ils allaient bien, est-ce que cette même sensibilité, cette même attention est là aujourd'hui au moment où pour les mineurs c'est un peu plus compliqué ?
Non, je n'ai pas l'impression. Les spectateurs que nous sommes, hein, parce que moi je m'inclus dedans, ont une espèce de sentiment de ras-le-bol, justement parce qu'il y a eu une surmédiatisation. Le président qu'il aille sur le lieu de la catastrophe, c'est normal. Piñera l'a fait, Evo Morales l'a fait, ça c'est normal. Mais c'est la manière dont il l'a fait qui était un peu choquante et qui a abouti finalement à un ras-le-bol. Qu'il présente son enfant à un mineur qui est devenu père sous terre, c'est inadmissible. Aucun homme ne fait ça, on laisse la femme, sa mère le faire. Enfin, il y a quelque chose quand même dans l'intimité d'un couple qui fait qu'on respecte ça. Et lui, non. Lui, il a tiré la couverture trop vers lui. Donc, il y a eu un ras-le-bol que tout le monde a.
Vamos, mujer, partamos a la ciudad. Todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar. Confía, ya vas a ver, porque ni Quique todos van a entender.
La franco-latine.